100% d'Europe, Léa Lisa Vesterov.
Bonjour, les 27 pays de l'Union européenne désormais touchés par le coronavirus. Et en Italie, le pays le plus atteint après la Chine avec pas loin de 10 000 cas, les mesures prises sont radicales. Depuis lundi, le pays entier est placé en quarantaine. Le gouvernement a en effet invité l'ensemble des Italiens à rester chez eux pour éviter la diffusion du virus. La situation est inédite. Reportage à Rome, vidé de ses touristes mais aussi de ses habitants. Eric Sénanc.
Dans le Borgo, le quartier touristique qui jouxte le Vatican, les tables installées à l'extérieur sont d'ordinaire pleines en cette saison. Mais au lendemain du décret confinant l'Italie, il n'y a pas âme qui vive. Fabiana n'a presque servi aucune pizza.
C'est vide, complètement vide. Quelques amis sont venus, des clients réguliers qui ne savent pas eux-mêmes si demain ils vont aller travailler.
Rome s'est transformée en ville fantôme. Jamais, même en plein mois d'août, la ville éternelle ne s'était vidée à ce point. Les taxis attendent désespérément un client. Dans les rues, quelques Romains que l'on croise portent un masque, ce qu'ils ne faisaient pas la veille. Mais le confinement total du pays a provoqué un choc et le besoin de se protéger. Nous croisons Valeria qui sort d'une pharmacie.
Je suis venue chercher des masques parce que je dois prendre le train pour me rendre au travail. Et même si le trajet est court, il faut un minimum de sécurité. Mais c'est la deuxième pharmacie de suite où il n'y en a plus.
Non loin d'ici, la place Saint-Pierre, où déambulaient encore mardi matin les rares touristes, a été fermée par précaution pour éviter la propagation du coronavirus, tout comme la basilique. Dans cette ambiance un peu irréelle, Adrian, qui travaille dans un bar voisin, veut rester malgré tout positif.
Si les gens ne viennent plus, on sera peut-être contraint de fermer quelques semaines jusqu'à ce que tout revienne à la normale. Beaucoup ont déjà baissé leurs rideaux, mais nous, pour l'instant, on continue, par respect pour les personnes. Et puis un café et un croissant, ce n'est pas encore interdit.
Dans ce quartier du Borgo, la trattoria Romolo attire d'ordinaire des dizaines de touristes, mais aussi les connaisseurs. Son patron, Luigi, s'inquiète pour les jours à venir.
Jusqu'à la semaine passée, on avait encore 50% de couverts. Là, on a perdu 90%. On va devoir fermer la semaine prochaine pour des congés forcés en espérant que la situation pendant ce temps puisse s'améliorer. Mais j'avoue que je n'y crois pas beaucoup. Je ne sais pas comment on va faire face. On est une petite entreprise de 15 salariés. Vous pouvez comprendre ce que cela signifie si l'on doit fermer comme ça à l'improviste.
Rome est devenue la capitale d'un pays coupé du monde. Dans quelques jours, la compagnie Air France annulera toutes ses liaisons vers l'Italie.
Et en France, premier tour des municipales ce dimanche. Et alors que les grandes métropoles réfléchissent à l'évolution de la circulation dans des villes de plus en plus saturées, à Paris, tous les candidats aux municipales se sont positionnés sur l'avenir du périph', comme on le surnomme. C'est une des spécificités de la ville de Paris, cette voie rapide, limitée à 70 km/h et qui entoure la capitale française. 35 km de route qui délimite littéralement la ville et la sépare de sa proche banlieue. Que faire de cette source de pollution atmosphérique et sonore, mais aussi de cet axe vital pour la circulation dans la ville? Le reportage de Marie Casadebet.
Avenue Paul Vaillant Couturier à Gentilly, nous sommes au sud de Paris, juste de l'autre côté du périphérique. Tous les immeubles ont une vue plongeante sur la voie rapide. La situation très spécifique de cette commune lui vaut d'être la plus polluée aux portes de la capitale. Patricia Torgeman en est la maire.
Le périphérique est au niveau du sol, donc il ne peut pas être couvert. C'est pas possible, ça ferait une boîte à chaussures. L'autre spécificité, c'est qu'il y a deux autoroutes qui rejoignent le périphérique, des infrastructures qui enserrent la ville.
Pour élu communiste, seul le projet d'Anne Hidalgo répondra aux besoins de sa ville. Réduction de la vitesse, interdiction progressive des véhicules polluants et végétalisation. La maire socialiste sortante ne veut plus de cette spécificité européenne. Jean-Louis Missica, son conseiller à l'urbanisme, compte prendre exemple sur Londres.
Vous avez un boulevard circulaire qui est à 5 km comme le périphérique, mais c'est un boulevard urbain, c'est-à-dire il y a des feux de signalisation, il y a des passages piétons, les vélos peuvent circuler. Et l'autoroute urbaine, elle est entre 20 et 40 km du centre de Londres. Donc Paris est une des rares villes à avoir un boulevard circulaire autoroutier si proche du centre.
Transformer le périphérique en boulevard, le projet du candidat écologiste David Belliard s'en rapproche. Gaspard Ganzer voulait lui carrément supprimer la voie rapide avant qu'il ne rejoigne la liste LREM d'Agnès Buzyn. L'ancienne ministre de la Santé propose plus simplement une couverture partielle de l'axe et l'attribution d'une voie aux véhicules propres, au covoiturage et au transport en commun.
Bonjour à toutes et à tous.
Sur ce dernier point, Rachida Dati l'a rejoint. Pour la candidate Les Républicains, pas question de toucher à la fonction actuelle du périphérique.
Moi, je veux bien avoir des parcs partout. À un moment donné, il faut aussi être sérieux. Paris est une capitale économique qui est aussi en lien avec un extérieur. Et donc, fermer encore plus Paris, je pense que ce n'est pas réaliste.
Chaque jour, 1,2 million de véhicules empruntent le périphérique, dont 900 000 pour quitter la banlieue et rejoindre Paris. Pour Nelly Garnier, la directrice de campagne de Rachida Dati, la capitale française ne peut se passer de cette voie rapide, porte d'entrée et de sortie.
Il faut conserver des fonctions de drainage du flux automobile. Moi, j'ai un des experts mobilité qui m'a dit, vous savez, la circulation, c'est comme un fleuve. Si à un moment, vous ne maintenez pas l'eau dans son lit, ça déborde partout. Et si vous ne maintenez pas la circulation automobile dans le périphérique, ça va déborder dans Paris.
Évolution ou révolution, aucun candidat à la mairie de Paris ne peut faire l'impasse sur la question de l'avenir du périphérique. On estime à près de 7000 le nombre de morts prématurées chaque année dues à la pollution atmosphérique dans la capitale et ses départements limitrophes.
Il y a la circulation, mais aussi la croissance démographique. Comment faire évoluer les villes quand, avec des loyers qui flambent, de moins en moins de personnes arrivent à se loger dans les centres urbains? Exemple dans la commune de Saint-Julien en Genevois, à la frontière franco-suisse. 15 000 personnes y vivent, dont plus de la moitié travaillent à quelques kilomètres de là, de l'autre côté de la frontière, à Genève, en Suisse. Des travailleurs toujours plus nombreux, attirés par les hauts salaires de Genève, mais incapables de s'y loger. Et pendant ce temps, les petites communes comme Saint-Julien peinent à suivre la croissance galopante de la population. Le reportage de Jérémy Lange.
Ça a été livré il y a peu de temps et on voit déjà des logements qui sont à vendre.
Là, ils construisent combien de logements ici ?
J'en sais rien du tout. On va leur demander.
C'est un fait, Antoine Vieillard a le rire communicatif. Le maire de Saint-Julien en Genevois n'est en revanche pas très au fait des programmes immobiliers en cours dans sa commune. Et c'est presque normal, ici les immeubles poussent comme des champignons. En France, la croissance moyenne pour une ville c'est 0,5% par an. À Saint-Julien, on est plutôt autour des 4%. Et ça fait beaucoup moins rire le maire.
Ce rythme de croissance, ça nous impose en fait de construire des équipements publics à un rythme frénétique. On a sur les 6 dernières années dû ouvrir 10 salles de classe. Au total, on aura consacré 23 millions d'euros sur la réalisation de salles de classe, c'est-à-dire une fois et demie la capacité de la commune à investir. Donc on a augmenté notre endettement pour construire des écoles.
Cet afflux de nouveaux habitants, quasiment tous frontaliers, est tout de même une chance pour les finances publiques, car Genève rétrocède une partie de leurs impôts aux collectivités françaises, sauf que les inconvénients commencent à peser plus lourd que les avantages, estime Antoine Vieillard.
Là, c'est extrêmement inquiétant et on va être dans une situation où on va être obligé de se protéger. Il va falloir qu'on construise des logements qui seront réservés aux personnes qui travaillent dans la commune et qui la font vivre, parce que sinon, on n'a plus d'enseignants, on n'a plus d'infirmières, on n'a plus de maçons, on n'a plus de caissières. Et un territoire sans toutes ces professions, c'est un territoire qui ne peut pas fonctionner.
Chaque année, Genève crée des milliers de nouveaux emplois, mais le canton ne construit pas assez de logements pour les absorber sur son territoire. Ces derniers mois, les Genevois ont d'ailleurs refusé de déclasser plusieurs zones pour augmenter le parc immobilier. C'est l'équivalent de 20 000 logements perdus aux grandes dames des petites communes françaises limitrophes, comme Saint-Julien, qui ne peuvent pas pousser les murs.
Genève est au cœur d'une contradiction, elle se compare à New York et Singapour pour son développement économique, mais elle veut garder sa campagne. On peut être New York ou Singapour, on peut être la campagne, mais on ne peut pas être les deux en même temps.
Cette pression exercée par les frontaliers, Victor Roque la connaît bien. Ce caviste indépendant travaille à Saint-Julien depuis 10 ans, mais sans y habiter, trop compliqué, explique-t-il.
Peu de disponibilité, des prix très hauts et une densité de population trop forte. Ça creuse un écart très important entre les frontaliers et les Français qui travaillent en France. Et en plus, ça se ressent aussi au point de vue culturel et au niveau du dynamisme et de l'implication des gens sur une commune frontalière où on sait bien que ce sont des communes de passage et où les gens sont là pour gagner de l'argent et repartir dans leur région d'origine pour vivre mieux.
Victime de son succès, la région du Genevois français est très inégalitaire. 14 des 20 communes les plus riches de France sont situées près de la frontière suisse. Mais aux portes de Genève, à Annemasse, 40% des habitants du Perrier vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est l'un des quartiers les plus défavorisés de la région.
Direction l'Autriche à présent. À la fin des années 80, Vienne comptait 1,5 million d'habitants. Aujourd'hui, ils sont près de 2 millions. Pour faire face à ce boom, la municipalité, aux mains de la gauche depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a choisi une politique interventionniste avec la construction de nouveaux logements. Direction le dernier projet immobilier en date, la Seestadt, 240 hectares à la périphérie nord-est de la capitale. Notre correspondante Céline Béal s'y est rendue pour nous.
Papa, il vient, ok.
8h30 du matin, Michaela et Samir, couple franco-autrichien, déposent leur fille aînée à la crèche. Leur cadette de 4 mois est dans une poussette.
C'est bon, allez. Bonne journée.
Pour rentrer chez eux, le couple n'a que quelques minutes à marcher dans des rues portant exclusivement des noms de femmes. Anna Arendt, Janis Joplin ou encore Edith Piaf. L'autre option, monter dans le minibus électrique et sans chauffeur qui tourne dans le quartier. Mais celui-ci est très lent. Michaela et Samir rentrent à pied par la rue Mariatouche.
Donc ici, en fait, c'est une rue commerçante. C'est une rue, en allemand, ils ont dit « gemanagte Straße ». Chaque magasin a sa place. Voilà, il y a un supermarché, banque, il y a la poste juste à côté. Voilà, donc en fait, on a tout ce qu'il faut. On n'a pas vraiment besoin de sortir de Seestadt. Ce qui est des fois bien, mais des fois, c'est pas bien parce que des fois, on a envie d'aller en ville pour voir justement autre chose.
Une rue planifiée. La ville choisit les magasins qui s'y établissent. Michaela est actuellement en congé maternité, mais quand elle travaille, elle se rend en métro au centre de Vienne. Il lui faut 35 minutes. La ligne 2 du métro a été prolongée jusqu'à Aspern avant même l'installation des premiers habitants en 2014. 5 ans et demi plus tard, le chantier continue. Seulement un tiers du quartier est déjà fini. D'ici 2028, 20 000 personnes devraient y vivre et 20 000 autres y travailler. À la mairie de Vienne, un haut fonctionnaire, le directeur de la planification, revient sur l'ambition de ce vaste projet immobilier. Thomas Madreiter.
Notre but était de montrer qu'on pouvait construire de la ville au XXIe siècle. On voit que les personnes qui peuvent se le permettre essayent plutôt de se loger dans la partie de la ville la plus dense, dans la ville des opportunités, de l'intensité, là où il y a des cafés, des restaurants, des cabinets d'avocats, là où je peux travailler, là où il y a des théâtres. Pour nous, c'est cela l'idée de la Seestadt. Pouvons-nous encore faire quelque chose comme ça au XXIe siècle?
Vienne veut construire une périphérie qui aurait les avantages du centre-ville, tout en veillant à la mixité sociale et au respect de l'environnement. Un essai de ville modèle en somme, et construite autour d'un lac artificiel. Seestadt veut d'ailleurs dire « ville du lac » en allemand. Sur place, Michaela et Samir sont arrivés dans leur vaste appartement au 5e étage d'un bâtiment propre et fonctionnel. Le couple de 33 et 34 ans trouve que la vie ici est différente de ce qu'elle est ailleurs à Vienne.
Moi, ce que j'adore en fait, c'est que en été, on se promène dans les rues ici, puis on voit des gens en maillot de bain avec les bouées aller au lac, quoi. Alors qu'on est en ville et que effectivement, il y a cette idée de béton. Le béton est omniprésent ici, mais on voit des gens passer avec leurs bouées sous le bras et la serviette autour du cou, et on se croirait à la plage en fait. Et ça, c'est quand même c'est quand même super, quoi. Je trouve ça génial, moi.
Ils apprécient aussi le sens du voisinage. Ici, on se connaît, on s'entraide.
Moi, je viens d'une grande ville, donc je viens de région parisienne. Donc, c'est quand on va quelque part, on a l'habitude de voir tout le temps des nouvelles têtes et il y a un très grand brassage et compagnie. Ici, on recroise assez souvent les mêmes têtes, chauffeur de bus, le postier. Ça fait très village, quoi. Mais un village avec toutes les le confort de la grande ville, quoi. Donc, c'est assez agréable.
Dans les rues alentours, il y a des logements subventionnés, des coopératives d'habitation, des colocations multigénérationnelles. Le gouvernement local a aussi investi dans des espaces verts et il y a des jardins partagés. Christoph Reinbrecht, sociologue à l'Université de Vienne.
C'est un projet prestigieux parce que la ville de Vienne a extrêmement beaucoup investi dans ce projet. Ça veut dire que c'est un projet qui est vraiment pensé et planifié, on pourrait peut-être dire. Il y avait un plan total, holistique, pour ce projet de développement.
Le chercheur qui suit le peuplement de ce nouveau quartier périphérique a des retours d'habitants majoritairement positifs. Mais la réalité de ce nouveau quartier sera-t-elle pour autant à la hauteur du projet de ses créateurs? Selon le sociologue, la Seestadt est actuellement surtout peuplée par la classe moyenne viennoise. La mixité sociale est encore limitée. En outre, c'est encore une cité dortoir. Mais si davantage d'entreprises viennent s'y installer dans les prochaines phases de développement, Vienne pourrait bien réussir son pari de créer un nouveau pôle urbain à sa périphérie.
c'est l'heure de notre chronique en un mot souvent intraduisible, voire imprononçable. Au menu aujourd'hui, Zassenzar. Bonjour Marie Billon.
Bonjour Léa Lisa.
Alors justement, ce mot, il se prononce comment Marie ?
Alors, je ne vais pas me risquer à donner le mauvais exemple, je vous laisse écouter cette petite vidéo faite par Sam Hugan, l'acteur principal de la série Outlander qui joue Jamie.
Zassenzar. An English person. An outsider. Say it with me. Zassenzar. You are now officially on your way to speaking Outlander. A good St. Andrew's Day to you. Or, as we say, La Nuvandre Magui.
Car le mot a été remis au goût du jour par la série américaine à succès Outlander, qui en est actuellement à la 5e saison. Dans cette saga, une infirmière de guerre en 45 se retrouve propulsée dans l'Écosse de 1743. Et forcément, à cette époque, on parlait le gaélique, le dialecte ancestral des Highlands du nord de l'Écosse. Et le mot Zassenzar est régulièrement employé pour désigner l'héroïne Claire. Alors après la leçon de prononciation, qu'est-ce que ça veut dire Zassenzar, Marie ?
Comme l'explique l'acteur, ça veut dire anglais, étranger. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Maggie Scott est spécialiste des langues écossaises à l'université de Salford en Angleterre et elle nous explique l'étymologie du mot.
Originellement, ça veut dire saxon, du nom du peuple germanique qui est arrivé en Angleterre au 5e siècle.
Mais le terme a évolué et surtout, il n'a pas exactement la même signification selon la langue dans laquelle il est utilisé. Mike est un fier Sassenach et il dépatouille tout ça.
C'est un mot gaélique qui désigne un habitant des basses terres. Donc finalement, tous ceux qui vivent au sud de la ville de Perth sont des Sassenachs pour les Gaëls. Mais quand le mot est utilisé dans la langue écossaise ou anglaise, Sassenach veut dire anglais. Ce n'est pas une insulte, c'est plutôt une blague. Je suis anglais et quand je suis arrivé ici en Écosse, on m'appelait Sassenach. Et puis j'ai réalisé qu'ils étaient aussi des Sassenachs puisqu'ils vivent dans les basses terres.
Mike vit à Édimbourg. L'Écosse est devenue sa patrie d'adoption. Il est même en faveur de l'indépendance. Mais il reste un Sassenach. Mais le plus perturbant, c'est que son ami Billy Kay, qui est 100% écossais, dont la première langue est l'écossais, est aussi un Sassenach, parce qu'il vit à Dundee, à 1h30 au nord d'Édimbourg.
La plupart des gens dans le sud de l'Écosse parlent un mélange de l'écossais et de l'anglais tous les jours. Et c'est pas un mot courant. C'est un mot spécialisé dans quelques situations précises et exactes.
Maggie Scott, donc la spécialiste des langues écossaises à l'université de Salford, nuance. Le mot est régulièrement utilisé, dit-elle.
Les médias l'utilisent beaucoup, surtout dans les pages sport, quand il y a un match ou un événement sportif qui oppose l'Écosse à l'Angleterre.
Mais la linguiste reste quand même prudente sur l'usage du terme Sassenach.
Il peut aussi être utilisé de façon hostile. On met quelqu'un à l'écart en le désignant comme différent de soi. Quand on met une étiquette sur quelqu'un, sur la base de son identité culturelle ou nationale, ça peut être cause de division.
Une dernière question, Marie. Et avec le Brexit, les Écossais ont voté pour rester dans l'Union européenne à 53,4%, contrairement aux Anglais qui ont voté pour en sortir à 62%. Alors, est-ce qu'on utilise plus souvent ce mot de différenciation depuis ?
Alors, c'est ce que je me demandais aussi, parce qu'on entend souvent le gouvernement et même les Écossais en général dire que l'Angleterre traîne l'Écosse hors de l'Union européenne contre son gré. Selon les sondages, ça a même augmenté le soutien pour l'indépendance. J'ai donc posé la question à Mike, militant pro-indépendance.
Oui, ça peut marcher dans ce contexte. Mais je crois que le langage utilisé est plus musclé. Les gens sont très en colère. Ils utilisent donc des termes plus désobligeants.
Alors Mike n'a pas voulu donner d'exemple. Il a tenu à rester poli, mais il confirme que ce sont des mots qui sont des insultes 100% du temps, contrairement donc à Sassenach, qui peut être aussi un terme affectueux.
Marie Billon, merci. À bientôt. Sophie Janin était à la réalisation aujourd'hui. Pour nous écouter à toute heure et partout, abonnez-vous à notre podcast Accent d'Europe sur votre plateforme préférée. À demain. RFI Planète.